Bonsoir, comment allez-vous? Cette semaine, j'ai été amenée à siéger dans un tribunal de famille. Le différend était archi-classique, s'il était le suivant. Fallait-il renvoyer à la case départ ce petit zinequeux, ce petit bâtard, ce petit chien de bâtard que le vent ou le hasard avait poussé devant la porte de la dite famille? Mais oui, un chien, on veut ce chien. Regarde comme il nous regarde, il est déjà à nous. On le promènera deux fois par jour, on le sortira toutes les heures. Non, on n'abandonnera pas. Oui, on adore sortir à 7 heures du matin quand il pleut. Si, on paiera le vétérinaire avec notre argent. Regarde, j'ai déjà économisé 12 euros, chantaient les enfants. Pas question de laisser un animal seul enfermé toute la journée. On ne sera pas toujours confiné. On n'en a ni la place ni les moyens. Ça me dégoûte de ramasser les crottes. Je passe assez souvent l'aspirateur comme ça. Qu'est-ce qu'on en fera pendant les vacances ? Opposaient les parents. Deux camps distincts, avec chacun des arguments de poids. J'avais été nommée avocate des parents, mais je comprenais tellement les enfants. Tant ce chien était une merveille de mignon, de malin et surtout d'amour inconditionnel. J'aurais aimé, comme Peggy Reboul dans son livre « Conscience animale » dont je vous parlais la semaine dernière, pouvoir entendre le chien. Au final, le jugement, comme toutes les cotes mal taillées, était mal taillé. Non pour le sympathique petit zinequeux, mais oui pour un autre animal, soi-disant plus adapté à la situation.
Bonjour, Noémie. Je voulais savoir s'il était possible de pouvoir apprivoiser un cochon. Merci de me répondre. Au revoir.
Bonjour Noémie. Jocelyne Porcher, sociologue et directrice de recherche à l'INRAE. On dit INRAE maintenant. Que pensez-vous de cette question de Noémie, adulte, exceptionnellement?
Salut Noémie déjà. Et je dis oui, c'est très possible d'apprivoiser un cochon. Et c'est même très très facile parce que les cochons, c'est des animaux très communicatifs. Personnellement, c'est mon animal préféré. Bon, c'est pas étonnant parce que je m'appelle Porcher, mais c'est des animaux très sympas et qui aiment la compagnie. Parce que, par exemple, quand ils sont dehors, très souvent on voit qu'ils sont couchés les uns près des autres, voire même qu'ils sont entassés les uns sur les autres. Et quand on dit justement copain comme cochon, ça illustre vraiment ça. C'est des animaux, c'est des bons compagnons, quoi. Et ce que j'ai vu, lu et entendu et appris par moi-même, les cochons aiment bien la compagnie des humains et ils ont des capacités à communiquer avec nous qui sont vraiment très grandes, aussi grandes que celles des chiens, et moi-même, je pense même plus. Ils sont très perméables en fait à ce qu'on a dans la tête, je ne sais pas comment, de façon mystérieuse, mais aussi à nos sentiments, à nos émotions. Ils sont très proche des humains.
Mais alors, le cochon est proche de l'humain, mais est-ce qu'on peut lire un cochon comme on lit un chien? Un chien, il a les oreilles couchées, il remue la queue, il tortille du derrière, on comprend quand il est content. Est-ce qu'il a des expressions physiques, un cochon aussi riche que celle du chien?
Un cochon, c'est plus... Bon, ils n'ont pas le même corps, mais ils parlent par contre, les cochons. Ils grognent.
On comprend.
Ils n'ont pas du tout les mêmes grognements. Quand l'éleveur arrive au champ, grand, 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 c'est pas la même chose s'ils sont contents, s'ils sont pas contents. Et puis, ce que j'ai appris par moi-même, c'est que les cochons aiment jouer. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils aiment bien jouer, mais si au bout d'un moment, on joue toujours au même jeu, ils se lassent et ils n'ont plus envie, quoi. Et il y a des vidéos sur Internet, j'ai vu, qu'on voit des cochons qui jouent avec des joysticks, des trucs vidéo, pour avoir des bonbons et tout ça. Ça, ils savent très bien le faire. Ils apprennent très vite. C'est facile en plus de leur apprendre des choses parce qu'ils sont très gourmands. Il y a un très joli livre que j'adore de Robert Newton Peck qui s'appelle « Vie et mort d'un cochon ». Et c'est l'histoire d'un petit garçon aux États-Unis dans les années 70, je crois, à qui le voisin donne une petite truie en échange d'un service qu'il lui a rendu. Donc voilà, qui est ami avec sa petite truie, qui a une relation un peu comme avec un chien. Mais la petite truie, au lieu de faire des petits, elle n'en fait pas, parce qu'il la nourrit un peu trop. Et donc le papa, il n'est pas tout à fait d'accord, vu que c'est sur une ferme. Donc c'est un roman d'initiation sur les liens, et ça c'est très fort en élevage, entre l'amitié pour les animaux et la nécessité de gagner sa vie dans une ferme. C'est un très joli roman pour comprendre ça, jusqu'où peut aller l'amitié, à partir de quel moment le travail et la nécessité de gagner sa vie rompt les liens d'amitié qu'on peut avoir avec les animaux.
Si vous n'avez pas eu le temps de noter le livre dont parlait Jocelyne Porcher, eh bien vous retrouverez ses références sur le site des Petits Bateaux. Vous savez comment ça s'appelle, Jocelyne Porcher, qui élève des cochons? Un apte métonyme. Par exemple, si Monsieur Tiff est coiffeur ou si Madame Pain est boulangère, eh bien c'est un aptonyme. Donc merci à Jocelyne Porcher. Vous connaissez le principe des petits bateaux. Les enfants posent des questions et nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Sacha, j'ai 6 ans. J'aimerais bien savoir comment faire les pièces de 2 euros. Merci.
Bonsoir Sacha, tu as une voix adorable. Comment fait-on les pièces de 2 euros? Je ne sais pas pourquoi 2 euros, mais en tout cas, c'est la question de Sacha. Bruno Collin, vous êtes historien et collectionneur. Alors, savez-vous comment on fabrique les pièces de 2 euros?
Oui, je pense que d'ailleurs savoir pourquoi Sacha a posé cette question, c'est que les pièces de 2 euros, comme les pièces de 1 euro, ont une caractéristique, c'est qu'elles sont bimétalliques.
Ah, c'est vrai.
Donc, elles ont un cœur et une couronne qui ne sont pas de la même couleur, donc pas du même métal.
Et belle.
Voilà. Pour mémoire, la pièce de 2 euros, le cœur est doré et la couronne argentée. Et dans la pièce de 1 euro, c'est l'inverse. Pourquoi ces pièces de 2 euros bimétalliques? Parce que ça, les pièces de forte valeur faciale sont celles qui sont les plus contrefaites. Donc, on a rajouté une difficulté pour éviter que les contrefacteurs les fassent trop facilement.
Mais dites-moi, Bruno Collin, on fait des fausses pièces?
Ah oui, bien sûr. On en
semble
trouve
à...
très fréquemment, bien sûr.
Mais c'est pas rentable. Je pensais qu'on faisait des faux billets.
C'est rentable pour les pièces à forte valeur faciale parce que si vous voulez, dans la fabrication des pièces, ce qu'il faut savoir, c'est que pratiquement jusqu'à la pièce de 10 centimes d'euros, oui, puisqu'on parle en euros, la fabrication coûte plus cher que la valeur faciale. Donc, en fait, les faussaires ne s'y intéressent pas. En revanche, la pièce de 2 euros coûte très peu à fabriquer, techniquement et en valeur métallique. Donc, ça intéresserait les faussaires d'en faire des fausses. Et c'est vrai qu'en plus, les gens se méfient beaucoup moins des monnaies métalliques qu'ils se méfieront, par exemple, d'un billet de 500 euros. Donc, on peut être tenté d'en faire. Mais grâce à cette technique qui est quand même très particulière et très compliquée à mettre en œuvre, les pièces de 2 et 1 euro bimétalliques sont moins contrefaites. La technique française qui a été adoptée pour la fabrication de ces pièces, c'est que, en fait, on amène en même temps sur la machine le cœur et la couronne qui sont libres. Et c'est la frappe qui va faire le sertissage définitif, qui évite que le cœur tourne à l'intérieur de la couronne.
Oui. Alors, les machines ressemblent à quoi?
Ce sont ce qu'on appelle des presses, c'est-à-dire que vous imaginez deux marteaux qui tapent l'un sur l'autre, et au centre, vous mettez une rondelle métallique vierge qui s'appelle le flanc.
Oui.
Et donc, c'est au moment où les deux marteaux vont se percuter que ça va donner la forme à la monnaie.
Et savez-vous qui l'a dessinée?
La pièce de 2 euros courante.
La française.
Alors, une face est une face commune qui a été dessinée par un Belge qui s'appelle Luc Luix. Et la face française a été dessinée par un graveur français qui s'appelle Jiménez. Ce qu'il faut vérifier également, c'est que la pièce de 2 euros a une autre caractéristique par rapport à toutes les autres pièces, c'est que c'est la seule pièce commémorative européenne. Donc dans la pièce de 2 euros, chaque année, chaque pays a le droit de fabriquer une monnaie commémorative. L'année 2007, par exemple, la France a fabriqué une pièce destinée à célébrer le 50e anniversaire du traité de Rome. Donc tous les pays, chaque année, frappent une pièce commémorative de 2 euros, ce qui n'existe pas dans les autres modèles.
Parce que c'est la plus grosse, donc on...
Voilà, et puis elle est plus spectaculaire, parce qu'effectivement, ça offre une plus grande surface aux graveurs pour s'exprimer.
Elles sont belles, hein, ces pièces de 2 euros.
Elles sont très belles.
Elles vous plaisent à vous, collectionneurs?
Ah oui, elles sont très belles. Et en plus, la pièce de 2 euros 2009 a été un concours ouvert au public, avec la possibilité de voter sur Internet. Donc je trouve que c'est assez intéressant, parce que c'est très interactif. Les gens s'intéressent à ce qu'ils ont dans la poche.
Très calé, le numismate de Bruno Collin, historien. Il écrit également dans un magazine qui s'appelle Monnaie Magazine. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Scars of principe extrait de l'album 21 et nous sommes le 21 mars 21. Enfin, pour être tout à fait franche, c'est plutôt l'album 21 puisque Adèle est anglaise.
Les petits bateaux sur France Inter.
Aude Grotte-Belair est française, mais elle s'intéresse à l'Égypte. Elle est égyptologue. Elle enseigne à l'université de Nîmes.
Bonjour, je m'appelle Zoé. Je voudrais savoir pourquoi les Égyptiens mettaient tous les organes de ceux qu'ils momifiaient dans des vases. Merci.
Pourquoi les Égyptiens mettaient tous les organes de ceux qu'ils momifiaient dans des vases, Zoé ?
On ne met pas tous les organes dans des vases. On met certains organes bien précis dans les vases.
Donc ça veut dire qu'on les enlève déjà.
Alors, au moment de la momification, ce qui va se passer, c'est que d'abord, outre le fait qu'on éviscère, etc. et tout, en fait, on va garder dans le corps cinq choses. D'abord le cœur. Mais le cœur n'est pas justement mis dans un vase. Le cœur est momifié à part et remis en place à la fin de la momification. Parce que le cœur est le siège de l'être et que donc il est tout à fait normal qu'il retourne à sa place. Et ensuite, on va garder quatre organes. On va garder le foie, les poumons, les intestins et l'estomac, que l'on va mettre dans quatre vases, qu'on appelle des vases canopes, qui sont chacun mis sous la protection d'une divinité particulière, d'un génie protecteur et d'une orientation précise. Et la question de Zoé est très intéressante parce que c'est un état des faits qu'il y a une momie qui fonctionne avec ses vases canopes. Mais très souvent, on ne sait pas pourquoi. Les traités de médecine tentent à nous faire comprendre que les Égyptiens, en fait, ont gardé les organes qui leur semblaient vitaux. Parce que dans l'au-delà, comme vous allez vivre une deuxième existence identique à la première, il faut absolument
avoir ce qu'il faut.
Bah oui, que ce corps puisse fonctionner de la même façon. Dans l'au-delà, on mange. Et on ne survit pas dans cette deuxième vie si on ne mange pas. C'est pour ça que vous avez tous ces dépôts d'offrandes alimentaires, que vous avez toutes ces représentations de menus sur les tombes, etc. Donc sans estomac, a priori, pas de vie. Sans intestin, pas de vie
non plus.
Et en fait, on a remarqué que ce sont uniquement les organes dont ils avaient réellement compris le fonctionnement. Il est tout à fait étonnant, par exemple, qu'ils n'aient pas gardé les reins dans les vases canopes.
Eh oui.
Mais en fait, c'est qu'ils n'ont pas compris le fonctionnement des reins.
Mais dis donc, ils gardaient le principal organe, c'était le cœur quand même.
Bah oui.
Et pas le cerveau.
Non, le cœur est le siège. C'est extraordinaire quand vous lisez dans les papyrus médicaux. C'est extraordinaire la façon dont ils expliquent le fonctionnement du cœur. Le cœur parle à tous ses membres. Ils en font en fait vraiment le siège, mais absolument de toute la pensée, aussi bien intellectuelle que physiologique. C'est tout à fait étonnant. Vous savez, la momification, bon, elle a un avantage, c'est de conserver le corps, mais elle a aussi eu pour les Égyptiens un avantage énorme, c'est d'inspecter le corps et d'en comprendre le fonctionnement.
Ah oui.
Parce que c'est pour ça que les Égyptiens sont très forts en médecine. C'est que quand vous momifiez, déjà il faut être très calé en médecine pour momifier un corps. Mais le fait de disséquer des corps, ça permet vraiment de comprendre un certain nombre de choses sur son fonctionnement. Et c'est vrai qu'en médecine, les Égyptiens sont vraiment très forts. Ils arrivent à réparer des plaies ouvertes, ils trépanent et toutes les trépanations ne se passent pas mal, etc. Donc non, la momification a eu plusieurs avantages.
J'aime beaucoup la façon de parler de Aude Grotte-Belair, parce que pour une universitaire, elle est vraiment très, très vivante. Son dernier livre est édité chez Actes Sud, il s'appelle Mérypta et le mystère de la tombe de Toutankhamon. J'ai passé mon enfance à entendre mes parents s'engueuler copieusement parce qu'ils avaient des tableaux et quand il y avait du soleil, mon père fermait les rideaux pour pas que les peintures de ces tableaux passent et ma mère disait « si c'est pour vivre dans le noir, je vois pas l'intérêt d'avoir des tableaux, autant les bazarder ». Ça ne plaisait pas à mon père, bien sûr.
Bonjour, je m'appelle Léo, j'ai 10 ans, je voudrais savoir pourquoi le rouge passe plus vite que les autres couleurs au soleil. Merci.
Est-ce vrai, Annette Douet, que le rouge passe plus vite que les autres couleurs au soleil, comme le demande Léo? Vous êtes restauratrice de tableaux, vous êtes enseignante et puis surtout experte en authenticité des matériaux de la peinture.
Tout va dépendre des rouges, en fait. Il y a des rouges qui vont être très stables, très résistants à la lumière. Donc la lumière, c'est en fait les ultraviolets qui sont produits par la lumière naturelle ou artificielle, qui va effectivement avoir une incidence sur la stabilité de la couleur. Donc il y a des couleurs qui sont résistantes et des rouges qui sont très fragiles au soleil. Les rouges les plus fragiles, ce sont ce qu'on appelle les laques, parce que la laque n'est pas un pigment, mais elle est un colorant. Alors le pigment, ça va être une poudre, alors que le colorant, ça va plutôt être utilisé, par exemple, pour colorer les textiles. Donc, ça va passer par un bain. Et quand on veut teindre un tissu naturel avec du rouge, on va utiliser des végétaux. Et ces végétaux vont produire des laques. Et une fois que le tissu est retiré de la bassine et que l'eau s'évapore, il reste dans le fond de la bassine, justement, des traces rouges. Et c'est cette trace rouge qui va être récupérée pour en faire un pigment dans le cas d'une peinture. Sauf que, comme c'est une laque et non pas un pigment naturel, ça va être très fragile. C'est comme ça, parce que les laques sont des colorants organiques qui sont en fait formés par un précipité fixé sur un support minéral. C'est vraiment une réaction très, très particulière.
Est-ce que les colorants viennent plutôt des plantes ?
Oui.
Oui, c'est ça.
Alors, les colorants viennent plutôt des plantes. Pour les rouges, par exemple, c'est le rouge de garance, le rouge d'alizarine, ou encore le rouge de carmin qui, lui, vient d'un petit animal, d'une petite, coccinelle d'Amérique du Sud, dont on aura broyé les élytres.
Et le pigment vient de la terre ?
Et le pigment, comme la terre rouge, absolument, on parlait de la terre de Sienne, qui est une terre plus ou moins orangée, effectivement, est beaucoup plus stable.
Et si je prends du sang, alors ça sera quoi, un colorant ?
Alors le sang, non, ne peut pas colorer. Il est rouge, mais ce qui le rend rouge, c'est l'hémoglobine, et l'hémoglobine, en fait, ne peut pas colorer. Par contre, d'accord, si vous prenez de l'éosine, du mercurochrome.
Ouais. Ah oui.
Ça, c'est très, très colorant.
Oui, on avait tous sur les doigts. Ouais.
Et donc, ça a donné, à la fin du 19e siècle, le rouge éosine, qui, lui, est très, très fugace à la lumière. Et ça, on l'a découvert sur des tableaux de Van Gogh, notamment, ou de Renoir, qu'on a décadré. Et on s'aperçut que la partie qui avait été cachée par le cadre laissait apparaître un rouge très, très joli ou un rosé très délicat. Et la partie qui avait été exposée à la lumière, il n'y a plus ce rouge délicat.
Quelle surprise !
Quelle mauvaise surprise !
Quelle mauvaise surprise.
Et c'est irréversible, on ne peut pas en fait faire revenir une couleur qui a disparu. Alors aujourd'hui, en fait, on fait des présentations virtuelles, c'est-à-dire que c'est comme sur les murs des cathédrales, où on va projeter sur le tableau, pendant un moment, la couleur qui a disparu pour pouvoir l'avoir.
Mais pourquoi vous, restaurateur de tableaux, vous trempez pas votre pinceau dans un bon rouge et vous repassez pas dessus parce qu'on passe pas avant
de l'eau. La déontologie stricte qui nous empêche de poser de la couleur là où elle existe déjà. Et ça fait partie de la patine. Et la patine est respectable et incontournable.
Annette Douai, on parle de couleurs qui passent. Moi, je pensais que c'était la lumière du jour qui faisait passer les couleurs, le soleil. Mais la lumière électrique peut également faire passer les couleurs des peintures ?
Oui, parce qu'en fait, il y a les lumières naturelles, comme le soleil, et la lumière artificielle. Et les lumières artificielles diffusent également des ultraviolets. Et ce sont ces ultraviolets, doublés des infrarouges, les infrarouges, c'est ce qui produit la chaleur, qui, en fait, peuvent entraîner, sur certains pigments ou certains colorants, on parle des évanouissements de couleurs.
Quand j'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche, avec un dans les poches, faisais moi la fine bouche. Je prenais toutes les avances, de sourire pas très cash. Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif. En triplet dessert, je reculais l'attente. Des gros ventres à remplir avec chansons badantes. Sur mon estrade en toc que je prenais pour scène. Je me sentais comme un coq, mais je flottais que sur la scène. Maquillé au pinceau, un solo pour mariage, avec costume cello et l'odeur du fromage. Je posais comme il faut, les gens menaient pas large. Je me sentais parfois trop, entre rêve et noyade. J'étais lui qu'on ne voit pas, qu'est-ce qu'il entre les tables. J'entends du Rihanna, avec un accent grave, qui sourit à chaque fois, pour faire plaisir mesdames. Faudrait pas que messieurs se sentent dragués par moi. Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idoles, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne qu'une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau, début, beau, début. Je découvrais Paris,
comme découvre l'étranger.
Qui vient d'où il fait gris,
où on laisse tout trop l'air.
Les monuments craris,
emportés comme jamais.
Je n'avais qu'une envie,
m'installer sur ce pavé,
à chanter toute ma vie.
Pas les chansons des autres,
j'en avais dans le vent.
Pas du saumon le nôtre,
j'attendais patiemment.
Monter sur le trône,
qu'on reprenne mes chansons.
Comme je reprends vie en rose.
quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne. Je rêvais d'idole, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne, qu'une soif qui déborde.
Bateau-mouche, c'était Eddie de Préto. On ne les voit plus, les bateaux-mouches, en ce moment, sur la scène. Vous écoutez France Inter, les petits bateaux.
Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 6 ans. Je voudrais savoir comment les journalistes font pour trouver les informations. Au revoir.
Bonsoir, alors nous avons évidemment proposé ta question à un journaliste, Edoui Plenel, qui est directeur de la publication de Mediapart, qui est un journal en ligne. Comment les journalistes font pour trouver les informations ?
Ah ben c'est très simple, ils les cherchent. L'idée qu'elles leur tombent d'en haut comme des pommes qui tomberaient d'un arbre, eh bien ça c'est un mythe. Il faut aller les chercher, il faut aller rencontrer quelqu'un qui a une information. Mais déjà ça, ça ne suffit pas. Parce que une fois qu'on a trouvé cette personne qui vous dit « Ah, vous savez, il s'est passé un truc formidable qu'il faudrait que vous racontiez dans le journal. » Le problème, c'est que on a trouvé quelqu'un. Mais est-ce qu'on a trouvé une information ? Non, il faut maintenant travailler.
Ça peut être du bluff.
Bien sûr. Et donc, il faut vérifier. Il y a une personne qui dit quelque chose, mais est-ce qu'elle dit vrai ? Donc, faut en rencontrer une deuxième. Et puis, faut se dire, mais ça s'est passé quand ? Tel jour ? Mais alors, il s'est passé quoi en même temps ? Donc, il faut recouper, vérifier, raconter l'histoire qui entoure cet événement. Bref, une information, ça se travaille. C'est pas une pochette surprise, c'est un boulot. Et c'est un boulot qui se fait par la vérification. Le métier de journaliste, c'est un métier de vérification. Comme on dirait tourner sa langue dans sa bouche. Eh bien, pareil, le journaliste, il doit vérifier, vérifier, vérifier. Et toujours plutôt deux fois qu'une seule.
Mais est-ce que Edoui Plenel, vérifier, tourner sa langue cette fois dans sa bouche, pour pas dire une bêtise, c'est pas très long ?
Mais le talent que doit cultiver un journaliste, c'est d'arriver à faire toutes ces opérations qui en effet prennent du temps, avec le plus d'efficacité, de rapidité possible. Le bon journaliste, c'est celui qui sait vérifier plus vite qu'un autre. Ouais. Le bon journaliste, c'est celui qui connaît tout le contexte d'une histoire, qui sait qu'il faut appeler, qu'il faut recontacter, qui débarque pas comme un naïf qui gobe tous les mensonges et tous les bobards. Donc, bien sûr qu'il y a cette question du temps. Et puis, aussi, le journaliste, il est pas seul. Parfois, il faut lui dire de freiner. Le journaliste, il a d'autres journalistes autour de lui qui lui disent « Attends, là, tu vas trop vite. Ton histoire, elle n'est pas prête. C'est pas solide, ton truc, là. » Donc, il faut ça aussi.
Et enfin, comme tous les métiers d'enquête, comme les policiers, comme les médecins, est-ce que l'intuition joue ?
La première qualité d'un journaliste, je dis souvent quand on me pose la question, celle qui ne s'apprend pas, celle qu'on doit avoir soit personnellement, qu'on doit cultiver, c'est la curiosité. Alors ensuite, la curiosité suppose une curiosité un peu particulière qui est une curiosité généreuse. Si on vient me voir avec un peu de séduction, un peu de gentillesse...
De compréhension.
Mais... Et voilà. Et écoute. Voilà. L'intuition vient avec cette curiosité généreuse. Parce qu'on commence à connaître, à ressentir. Et on se dit, mais oui, mais bon sang, c'est par là qu'il faut que j'aille chercher.
Merci à Edoui Plenel. C'est justement pour ça que nous l'avons entendu ce soir, parce qu'à partir de demain commence la semaine de la presse et des médias dans l'école. Le Monde des Ados vous propose un hors-série spécial info. Vous y trouverez un dossier sur la liberté d'expression avec une carte représentant le degré de liberté dont disposent les journalistes dans 180 pays. En dernière position, la Chine, la Libye, l'Iran et quelques autres, ce n'est pas une surprise. Mais en première position, qui mettriez-vous ? Non, pas la France, qui n'arrive qu'en deuxième, avec le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, les États-Unis d'Amérique ou l'Afrique du Sud. La liberté, là où la liberté de la presse est la meilleure, c'est en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse, en Norvège, Suède, Finlande, et aussi au Portugal et au Costa Rica. Vous trouverez dans ce monde des ados également une petite biographie de l'américaine Nellie Bly, pionnière du journalisme au féminin de la fin du 19e siècle, ce n'est pas si loin. Feignant la maladie mentale, elle s'est fait interner au Blackwell's Island Hospital à New York. Elle y découvre les mauvais traitements, les souffrances et les humiliations
qui vivent les pensionnaires. Son reportage suscitera stupeur et colère. C'est presque 50 ans plus tard, en 1925, qu'Albert Londres publiera chez nous son fameux « Chez les fous ». Pendant la Première Guerre mondiale, elle sera correspondante de guerre en Europe. Nelly Bly est morte en 1922. Podcaster ces petits bateaux. Marie-Claire Matoute, Marjorie Devoucaux, Eliane Gérard, Noël Bréham, 4 femmes pour 2 hommes, mais quels hommes, Grégory Wallon et Jean-Baptiste Audibert. Cette équipe des petits bateaux espère bien vous retrouver dimanche prochain à 19h30. À suivre, Jérôme Garcin et Un masque et la plume, consacré ce soir au cinéma.